إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعون الله عز وجل دراستنا لشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. وقد شرحنا في درسنا الماضي باب إحياء الموات، باب إحياء الموات، وذكرنا تعريف الأرض الموات، وقلنا إنها قد قيدت بقيدين: الأول الأرض البائرة التي لم تزرع، والقيد الثاني التي لا يعلم لها مالك يملكها. طيب، donc pour suivre بإذن الله عز وجل notre explication du livre منهج السالكين du noble Cheikh Saadi رحمه الله رحمة واسعة. Et on a évoqué la semaine dernière le chapitre, donc qu'on avait d'ailleurs terminer l'explication concernant ce qu'on appelle Ihya al-Mawat. Ihya al-Mawat, donc le fait de s'occuper de redonner vie à une terre qui a été laissée en friche ou à l'abandon. On avait donc donné la définition de al-Mawat justement. Donc al-Mawat, pour que la terre soit considérée comme étant une terre qui est Mawat, il y a deux conditions. La première, le fait qu'elle soit délaissée, laissée en friche et non cultivée. Donc une terre qui n'est pas cultivée, qui est laissée à l'abandon. La deuxième condition, une terre dont on ne connaît pas ou dont on ne connaît aucun propriétaire qui en serait donc le propriétaire. Alhamdulillah. Wa dhakarna kadhalikum كيفية الإحياء، وبين أن أسباب الإحياء أربعة أمور: الأول تسويرها بحائط يحيط بها يمنع الدواب وإلى غير ذلك. Puis on a mentionné donc les différentes façons de justement de redonner vie à cette terre. Donc on a dit qu'il y avait en tout quatre façons de faire. La première, le fait de construire et d'entourer cette terre-là par une clôture. Donc, on a ce qu'on pourrait appeler donc en français le clôturage, voyez, taswir, empêchant ainsi les animaux d'y entrer ou de dissimuler celui qui serait à l'intérieur. Voyez, الثاني إحياؤها بحفر بئر فيها وحمل بئر ويسمى حريمها وهو ما حولها إذا كانت جديدة 25 ذراعا من كل جانب، وإذا كانت قديمة 50 ذراعا من كل جانب، وهذا إذا كانت للشرب أو للشرب أو لأجل تملك البقعة أما إذا كانت لأجل زرع فحرمها 300 ذراع من كل جانب، والذراع هو ذراع اليد، ويبدأ من طرف الإصبع الوسطى إلى المرفق، ويقدر بحوالي 54 سنتيمتر، يعني أكثر من نصف المتر بقليل. Puis on a évoqué ensuite la deuxième cause de l'ihya, qui est le fait de creuser un puits, de forer un puits. Voyez. Il faut savoir que il y a ce qu'on appelle le harim. Donc le harim, en réécoutant l'audio de la semaine dernière, je me suis rendu compte que mes paroles étaient assez yani, confuses. Voyez. D'ailleurs, je m'en excuse. Ici, le terme le harim, en vérité, ça désigne le terrain qui yani, est autour, hein, le terrain qui entoure le puits qui a été creusé. Voyez, فيقصدون عادة بالحريم هو شيء المحيط بالبئر. يعني حرم الشيء هو ما يحيط به، كما يقال حرم الجامعة أو ما أشبه ذلك. طيب. Donc le halal, harim de quelque chose, c'est la chose qui entoure cette chose-là. Donc le harim pour le puits, c'est le terrain qui entoure le puits. D'accord? Donc on dirait haram shay, c'est-à-dire la chose qui entoure cette chose, cet endroit-là. On pourrait dire par exemple haram al-jami'a. Donc le haram de al-jami'a, c'est ce qui entoure l'université et autre que cela. فيقول الفقهاء إذا حفر الإنسان بئرا في مكان فكم من المسافة التي يملكها بموجب حفر هذا البئر، وهذا الذي يسمونه حريما، يعني أن له حقا بمثل هذا المقدار. Donc les fuqaha, les juristes ici, pour être clair, pour que vous compreniez bien, inshallah ta'ala, ils disent que lorsque l'individu a creusé un puits à un endroit, à combien a-t-il le droit de posséder comme terrain autour de ce puits? D'accord? Donc il a creusé un puits, donc de par cet acte-là, il a droit à une certaine parcelle de terre qui entoure ce puits-là. Donc cette parcelle de terre qui entoure ce puits, on l'appelle en arabe al-harim. D'accord? Al-harim. Donc il aura droit à une certaine superficie de terre qui entoure le puits qu'il a creusé. Et la semaine dernière, on a donc évoqué hein, cette superficie dont il a droit. D'accord? On a dit que si le puits était un puits yani, qui est récent, qui est nouveau, il aura droit à 25 vera. 25 vera. Donc je vous rappelle qu'un vera, c'est une unité de mesure, c'est la coudée, qui va donc du bout du majeur jusqu'au coude, qui fait à peu près. On avait dit 54 cm, d'accord? 54 cm. Donc, si le puits il est récent, il est nouveau, la personne aura droit à 25 coudées. S'il est ancien, il aura droit au double, à 50 coudées de superficie entourant le puits de tous les côtés. Vous voyez? On avait dit également que si c'est dans un but de culture, d'accord? Eh bien, la superficie sera, dans ce cas-là, de 300 coudées de tous les côtés autour du puits. طيب هذا هو. والأمر الثالث إحياؤها بإجراء الماء إليها من عين أو نهر ونحو ذلك. طيب. Donc celui également troisième cause, celui qui va faire parvenir de l'eau à cette terre là, yani de l'eau d'un puits ou d'une source etc. Il aura droit donc à posséder cette terre. والرابع إحياؤها بمنع ما لا تزرع معه كحجز المستنقعات عنها وإزالة الأحجار وكذلك الأشجار ونحوها. Et quatrièmement, le fait de faire ce ihya en empêchant que des marécages ou des marées yani, touchent cette terre-là, ou en enlevant yani, des choses à cause desquelles la culture ne serait pas possible, tel que le fait d'enlever des pierres qui empêcheraient la culture, de déraciner des arbres ou autres, et en y faisant les causes afin qu'on puisse cultiver la terre. Naam. Tayyib. Alhamdulillah. Fa al-an, inshallah ta'ala, sanantakhilu ila al-bab al-ati. Wa huwa باب الجعالة والإجارة. باب الجعالة والإجارة. وهما قال الشيخ وهما أي الجعالة والإجارة. وجمع المؤلف رحمه الله بينهما لتقاربهما، وإن كانت الجعالة أوسع من الإجارة كما سيأتي في الفروق إن شاء الله تعالى بينهما. والإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريطا وهو على دين كفار قريش. الحديث أخرجه البخاري. وقال ابن المنذر رحمه الله اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة. أما الجعالة فدليلها من القرآن الكريم قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي الحديث وفيه فقال بعضهم ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم الحديث أخرجه البخاري ومسلم. طيب Donc, le chapitre il est intitulé ici Babul Ji'alat wal Ijara. D'accord? Donc, on va garder les termes ici comme ils sont, Inch'Allah Ta'ala, Al-Ji'ala et Al-Ijara. On verra que ces termes sont proches l'un de l'autre. On verra donc la différence qu'il y a quand même entre ces deux. Donc, il dit l'auteur, Rahimahullah Ta'ala, ces deux-là, c'est-à-dire Al-Ji'ala et Al-Ijara. Donc l'auteur, il a rassemblé les deux dans un même chapitre, car, encore une fois, ils sont très proches l'un de l'autre. Même si, on verra que Al-Ji'ala, c'est plus large que Al-Ijara, comme on le verra lorsqu'on va citer les différences qu'il y a entre ces deux. Al-Ijara, c'est permis, selon le livre d'Allah, la Sunna, et le consensus des ulama, rahimahumullah. Il dit Allah, Jalla wa Ala, dans la surat Al-Talaq, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Hein? Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala parle donc des femmes qui allaitent, il dit dans le sens rapproché, et si elles allaitent, yani vos enfants, pour vous, donnez-leur leur rétribution, leur salaire, أُجُورَهُنَّ. D'accord? Donc ça prouve qu'il est permis de louer les services de quelqu'un, ici en l'occurrence, l'allaitement. طيب. Selon Aisha radhiyallahu anha, qui a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a loué les services, ainsi qu'Abu Bakr, ont loué les services d'un homme de descendant de Adil, Hadiyan Khirritan. C'est-à-dire en tant que, ils ont loué ces services en tant que guide, d'accord? En tant que guide, comme vous connaissez sûrement tous l'histoire hein, de la Hijra, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Mecca à Al-Medina. Donc ils ont loué les services d'un certain, pour ceux qui ont étudié un peu la Sirah, Abdullah Ibn Urayqit, Abdullah ibn Urayqit, donc il faisait partie donc des Kuffar Quraysh, d'accord, qui a accepté de les guider, bien sûr, en contrepartie d'un salaire. D'accord, le hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Il dit l'imam Ibn Munziri, rahimahullah, que les ulama, les savants de la communauté sont unanimes sur la permission de Al-Ijara, qui les permet de donc louer les services yani, de quelqu'un, d'accord dans ce qu'on appelle ici Al-Ijara. Et cela a donc été rapporté des savants de la Umma. Maintenant, on va passer à Al-Ji'ala. Al-Ji'ala, la preuve que c'est permis, dans le Coran d'abord, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la surat Yusuf, alayhi salam, « وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرُ » D'accord, dans le sens rapproché, Allah dit, et celui qui viendra avec cela, c'est-à-dire avec l'objet, le récipient qui avait été volontairement égaré, celui qui viendra avec ce récipient-là, il aura donc quoi? Il aura himlu ba'ir, c'est-à-dire il aura l'équivalent de la charge d'un chameau en nourriture, comme l'ont dit les exégètes. Ça c'est la preuve donc que al-ji'ala c'est permis. الحمد لله. جعلها كم بوغي appelé ici comme une rétribution, une récompense. D'accord? Quant à la sunna, le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, qui a dit, un groupe de compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est parti en voyage jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans un des quartiers des tribus arabes. Alors, ils ont demandé l'hospitalité qu'ils ont refusé. Ils ont refusé de leur offrir l'hospitalité. Puis, le chef de ce quartier a été mordu ou piqué, yani par une bête venimeuse. Jusqu'à la fin du hadith. Le hadith, vous le connaissez sûrement. Et donc, dans ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit un des sahaba? Il a dit, je n'appliquerai sur toi, yani, la ruqya, hein, le traitement, yani, religieux à travers la ruqya, que si tu nous donnes, yani, une récompense, yani, ce qu'on appelle c'est du'lan, un salaire, une récompense, en contrepartie, si jamais, yani, tu es guéri par cette cause-là. Donc, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils recevraient en échange, yani, une partie du troupeau des bêtes qu'ils possédaient. Donc, le hadith, il est muttafaqan alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah. طيب نعم الحمد لله طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة طيب donc dit l'auteur ces deux-là donc il va donner la définition maintenant de al-ji'ala de l'ijara il dit d'abord al-ji'ala c'est le fait de déterminer un bien connu pour celui qui a effectué un travail pour toi. D'accord? Le fait de déterminer un bien, un salaire, un bien qui est connu, qui est déterminé, qui est défini, pour celui qui va faire un travail pour toi. Et ce travail-là, il peut être soit défini, soit indéfini. D'accord? Ça, c'est Al-Ji'ala. Taïeb? Naam. Fa mithal Al-Amal Al-Ma'loum كأن يقول من رد عبدي مثلا فله كذا فيستحقه من رده Donc parmi les tâches ou les travaux qui peuvent être définis, le fait que la personne, une personne par exemple qui a perdu son esclave, donc là c'est un exemple que l'on donne, yani, parce que c'est des exemples que l'on retrouve dans les anciens livres, des fuqaha, des juristes, d'accord? Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais pour que vous compreniez bien et qu'on reprenne les exemples que les savants ont donnés parmi les salafs, qui disent donc celui qui ramène mon esclave, donc qu'il a perdu, eh bien il aura droit à telle ou telle chose. À telle ou telle chose. Donc là, ici, le travail, il est défini, d'accord? Le travail, il est prédéfini, alhamdulillah. مثال العمل المجهول كقوله من خاط هذا الثوب ولم يصف الخياطة أو من الردة الضائعة ولم يعين موضعها فله كذا، فيستحقه من خاط الثوب ومن رد الضائعة. Exemple de travail maintenant qui est majhoul, qui est ignoré, qui est inconnu ou indéterminé. Par exemple, si tu dis à la personne, celui qui recoud mon vêtement, d'accord, il aura droit à ceci et cela. Mais tu n'as pas précisé yani, comment doit être la couture. Tu n'as pas donné de description précise pour la couture. Donc, c'est un travail qui est majhoul. D'accord, et c'est permis pour le ja'ala. C'est autorisé pour le ja'ala. Ou tu dis à quelqu'un, celui qui ramène l'objet que j'ai perdu, mais tu ne dis pas où tu l'as perdu. Ça également, c'est un travail qui est majhoul. D'accord, donc celui qui a recousu le vêtement, celui qui a ramené cet objet-là qui a été perdu ou égaré, eh bien, il aura droit à une récompense. Il y en a ici. De Al-Ji'ala. De Al-Ji'ala. Voyez? Et là. الآن يقول ومعلوما في الإجارة. فلما عرف المؤلف الجعالة عرف الإجارة وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو جعل منفعة معلومة لمن يعمل له عملا معلوما. Puis il va donner la définition ici l'auteur رحمه الله تعالى de الإجارة après avoir donné celle de Al-Ji'ala. Al-Ijara, Tayyib, c'est le fait de déterminer un bien connu pour celui qui va faire pour toi un travail qui est connu. D'accord? Ou le fait de déterminer un profit qui est connu pour celui qui va faire pour toi un travail qui est connu. Donc la différence ici entre, pour ceux qui ont été attentifs, entre Al-Ji'ala et Al-Ijara, c'est qu'Al-Ji'ala, le travail qu'on va te faire peut être connu, soit il peut être déterminé ou indéterminé. Alors que là, pour l'ijara, le travail doit être forcément déterminé. Mais par contre, tu pourras donc déterminer un bien pour cette personne-là ou un profit. Qu'est-ce que ça veut dire? On va donner les exemples, inshallah ta'ala. فالعمل المعلوم مثل بناء الجدار كأن يقول ابن الجدار ولك 1000 أورو فهي أجرته. طيب. Donc, parmi les travaux que la personne peut te faire de manière connue, d'accord, comme la construction d'un mur. Donc tu dis à la personne, construis-moi ce mur et en échange tu auras 1000 euros, ce sera ton salaire, ta rémunération. أما المنفعة المعلومة مثل أحصد الزرع وأجرتك سكن الدار سنة أو ركوب البعير شهرا وحلب الشاة سنة ونحو ذلك. طيب. Donc on a dit, en échange, tu peux donner à la personne un bien qui est déterminé, ou tu peux donner aussi, ou lui faire profiter d'un profit qui est déterminé. Donc c'est quoi un profit déterminé, une exploitation, si vous voulez, déterminée? Par exemple, tu dis à la personne, récolte pour moi cette culture, ce champ, et ton salaire, ta récompense sera de pouvoir habiter telle ou telle maison pendant une année. Hein? Tu auras le droit d'habiter dans la maison pendant une année. Ou alors, récolte-moi ce champ et tu auras le droit d'utiliser ma monture, mon chameau, mon cheval pendant un mois. Ou tu auras le droit en échange de traire يعني ma bête, ma brebis ou ma chèvre pendant une année, et autre que cela parmi donc les profits que l'on peut mettre à disposition pour celui qui a fait un travail pour toi qui est connu et qui est défini de base. Voyez? Alhamdulillah. إذن قال أو على منفعة في ذمة أو على منفعة في أذمة أي تكون الإجارة على منفعة في الذمة مثل خياطة الثوب وغسله وكيه وذبح الشاة وطبخها ونحو ذلك. دونك الإجارة peut être conclue également en échange d'un travail. En échange d'un travail, d'accord, qui sera donc redevable de la personne qui a accepté cette إجارة. إذن الإجارة هي بيع المنفعة، والمنفعة ضربان. الأول أن تكون المنفعة في ذمة، وهي ما يتقبل من الأعمال في الذمة كالخياطة والنجارة ونحوهما، مثل أن يستأجر خياطا ليخيط له ثوبا. دونك الإجارة يجي peut se faire pour un profit, d'accord, qui sera redevable chez la personne qui l'a accepté. Donc l'ijara, la définition de l'ijara ici, qu'a donné Cheikh Sulayman, le fait de vendre quelque chose de profitable. Al-manfa'a, de vendre quelque chose de profitable. Et cette manfa'a est de deux sortes. La première, une manfa'a qui va donc être redevable chez la personne qui l'a accepté. D'accord? Donc, fait partie de cela, l'acte qui a été accepté et qui doit être donc exécuté par la personne, tel que la couture, tel que la menuiserie et autre que cela. D'accord? Donc, encore l'exemple, le fait que tu vas engager quelqu'un, d'accord? Tu vas louer ses services afin qu'il fasse pour toi de la couture et qu'il coupe pour toi un habit. D'accord? Donc là, on appelle cette ijara ala manfa'atin fi dhimma, dans un profit qui va être redevable de la personne. Le fait de coudre l'habit, le fait de le laver, le fait de le repasser, ça fait partie de tout ça. Le fait de dégorger une bête pour toi, de la cuisiner, et autre que cela fait partie donc des manfa'a yani fi dhimma. والثاني أن تكون المنفعة في العين كاستئجار الدار لسكناها والدابة ليركبها أو يحمل عليها ونحو ذلك. Et le deuxième type de manfa'a, donc on a vu le manfa'a, qui donc c'est une tâche, une mission qui est redevable de la personne. Et le deuxième type de manfa'a, c'est une manfa'a dans une chose précise, yani un objet précis. Comme par exemple le fait de demander la location d'une maison pour y habiter. D'accord? Demander la location d'une maison pour y habiter. Louer une maison, en gros. Donc louer une maison pour y habiter. Ou louer une bête pour l'utiliser, pour la monter, pour l'utiliser comme yani porteuse de charge, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est le deuxième type. On a vu le premier type. Al-manfa'atu fi dhimma. D'accord? Le fait de louer les services d'un couturier, d'un menuisier et autre que cela. Et al-manfa'a fi al-'ayn, le fait de louer une maison pour l'habiter, louer une bête pour la monter, et ainsi de suite. Jay. ثم قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا وإلا فلا أي وفى بما بينهما من اتفاق فإنه يستحق الأجرة أو الجعل ومن لم ينهي العمل فلا يستحق شيئا ومثاله لو أن شخصا جعل جعلا لمن حفر بئرا واستخرج أو استخرج منها الماء فإذا حفر أحد البئر ولم يخرج الماء فلا يستحق الجعل ها فلا يستحق الجعل لعدم تحقق الشرط لعدم تحقق الشرط طيب نعم Puis dit, celui qui a fait donc ce pourquoi on l'a engagé, que ce soit dans l'ijara ou l'ijala, eh bien, il aura droit donc à un salaire, à une contrepartie. Mais s'il n'a pas accompli ce pourquoi il a été engagé, il n'y aura pas droit. D'accord? C'est-à-dire que la personne donc qui a rempli le contrat et exécuté le travail pour lequel il a été engagé. D'accord? Le travail qui a été conclu, le contrat qui a été donc conclu entre les deux contractants. D'accord? Les deux parties. Ça y est. Qu'il aura droit à ce salaire ou à ce djoul. Al-Ujra ou al-Djoul. Le salaire ou la récompense. Alors que celui qui n'a pas terminé le travail, il n'y aura pas droit. Exemple, si une personne a défini un salaire ou une récompense pour celui qui va lui creuser un puits et qui va en sortir de l'eau. Donc si la personne a bien creusé le puits mais n'a pas fait sortir de l'eau, il n'aura pas droit à cette récompense. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réalisé la condition qui est le fait de creuser un puits, mais aussi de faire sortir de l'eau de ce puits-là. D'accord? Non. Illa idha ta'adhdhara al-'amalu fi al-ijarati fa innahu yataqassatu al-'iwad. D'accord? Sauf s'il y a une impossibilité, yani dans le travail au niveau de la location. Dans ce cas-là, la contrepartie sera diminuée. Hey, يستحق قسطا من الأجرة بحسب ما قدم من العمل. وهذا خاص بالإجارة دون الجعالة. هذا خاص بالإجارة دون الجعالة. مثاله: لو استأجر شخص سيارة ثم تعطلت عن العمل في منتصف الطريق وقد استأجرها بمئة ثم استأجر سيارة أخرى لباقي المسافة بسبعين فيستحق صاحب السيارة الأولى ثلاثين لأن المستأجر انتفع بها بهذه القيمة. Sauf, donc on a dit, celui qui n'a pas terminé le travail, celui qui n'a pas fourni le service pour lequel on l'a loué, il n'est pas payé. Il ne reçoit pas son salaire ou sa récompense. Sauf si le travail est impossible. Dans ce cas-là, on va diminuer la contrepartie. C'est-à-dire, il recevra donc une partie seulement du salaire en fonction de ce qu'il a fourni comme travail. Donc ça, c'est spécifique à l'ijara. Donc ça, cette façon de faire, ou cette règle-là, elle ne concerne que l'ijara et pas l'ja'ala. Exemple, si la personne loue une voiture, a loué une voiture, d'accord? Mais cette voiture tombe en panne, d'accord? Au milieu de la route. À la base, il avait loué pour une valeur de 100 euros. D'accord? Elle tombe en panne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va louer une seconde voiture pour parcourir le reste de la route qui lui reste à parcourir. D'accord? Et cette seconde voiture, il va payer cette fois 70 euros pour faire le reste du chemin. D'accord? Donc, celui qui a loué la première voiture, qu'il avait loué à la base pour 1000, pour 100 euros, pardon, qu'il avait loué à la base pour 100 euros, est-ce qu'il va recevoir ces 100 euros? Non. Pourquoi? Parce qu'il est tombé en panne au milieu de la route. Donc, il va recevoir combien? Il va recevoir 30. 30 euros et pas 100 euros. Pourquoi? Parce qu'on a vu que lorsqu'il a loué la seconde voiture, il a dû la louer pour 70 euros pour pouvoir finir la route. D'accord? Donc 100 moins 70, ça veut dire qu'il ne l'a utilisé que pour 30 euros. Donc il lui devra, au propriétaire de la première voiture, il ne lui devra que 30 euros en baissant donc au prorata, comme on dit, ou en fonction proportionnellement à l'utilisation dont il a fait preuve de la première voiture. D'accord? Non. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله ولم يخرجه المسلم. أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. وقوله في الحديث ورجل استأجر أجيرا إلى آخره يدل على جواز الإجارة للعمل، ويدل على أن الأجير يستحق أجرته إذا قام بالعمل المستأجر عليه أو بانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة، وهذا يشمل الأجير الخاص وهو من يقدر نفعه بالزمن كالخادم في البيت، والأجير المشترك وهو من يقدر نفعه بالعمل كمن استأجر من يخيط له ثوبا أو من يبني له حائطا. في الحديث وعيد على من يأكل حق الأجير، وهذا كثير الوقوع لكون الأجير في الغالب ضعيفا لا يستطيع أخذ حقه من ظالمه، والله المستعان. Donc il dit ici, cela à Abu Huraira, radiallahu anhu, qui a dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit. Donc c'est un hadith, ici, Qudusi, Allah a dit. Trois individus, ou trois catégories de personnes, je serai son adversaire le jour de la résurrection. Je serai son adversaire le jour de la résurrection. La première, un homme qui s'est engagé, un homme qui s'est engagé ou qui a fait un pacte en mon nom, hein, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en mon nom, ensuite qui a trahi. D'accord ? Un homme qui s'est engagé au nom d'Allah tabarak wa ta'ala et qui a trahi. Puis il dit un homme qui a vendu une personne libre et qui a consommé de sa valeur. D'accord ? Donc un homme qui a capturé une personne qui est libre de base et qui l'a vendue comme un esclave. Ceci donc fait que la personne sera ou aura Allah comme adversaire le jour de la résurrection. D'accord ? Donc on voit ici entre parenthèses le crime abominable, notamment des Khawarij qui vont dans certains pays et qui capturent des gens, puis les vendent comme des esclaves. Wallahu al-musta'an. Et un homme enfin qui a louer les services donc d'un agir, de quelqu'un qui a loué les services de quelqu'un, et donc ce quelqu'un a rempli donc la mission pour laquelle il a été engagé, mais on ne lui donne pas son salaire, donc celui qui fait ça, qui engage quelqu'un pour un travail et après que le travail ait été accompli ne le paye pas, il fait partie également des gens qui auront pour adversaire Allah tabarak wa ta'ala yawm al-qiyamah. Donc le hadith, il dit ici le Cheikh Sa'adi, rapporté par l'imam muslim, mais Cheikh Sulaiman, il dit c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari, pas par muslim. Donc dans le hadith, on a la preuve de la permission de l'ijara, le fait de louer les services de quelqu'un. D'accord ? Et ça prouve également que celui qui a été engagé, l'ajir, il mérite son salaire, une fois qu'il a fait le travail. D'accord ? Le travail pour lequel a été engagé. Ou si la période de travail pour laquelle il a été engagé est terminée, d'accord, il recevra ou il devra recevoir son salaire. Et cela englobe le salarié, entre guillemets, ou le travailleur spécifique, c'est-à-dire celui qui a été engagé pour un temps déterminé comme un khadim, quelqu'un qui va travailler dans une maison, ou l'ajir al-mushtarak, c'est-à-dire celui qui va être embauché pour un travail prédéfini, tel que celui qui a été embauché pour coudre un vêtement ou pour construire un mur ou autre que cela. Donc une fois qu'il a fini de construire son mur, une fois qu'il a fini de construire son vêtement, eh bien il aura droit à son salaire. D'accord ? Dans le hadith, on a une menace également à l'encontre de celui qui consomme injustement le droit de l'ajir, de celui qui a été embauchés ou engagés. Et cela, malheureusement, arrive fréquemment. Et cela est dû notamment au fait qu'Al-Ajir, de façon générale, eh bien, il est faible, miskin, parce qu'il a été engagé. Et en général, il n'a pas la capacité de réclamer son droit à celui qui a été injuste envers lui, si ce n'est à travers les autorités, etc. Et encore, faudrait qu'il ait les preuves pour prouver tout cela. Et then, comme a dit les ulama, من الناس, والله المستعان, من يستقدم عاملا بأجرة معلومة كخمسين أورو فإذا قدم البلد لم يعطه إلا 250 أورو مثلا وبعده أو يعيده بسكن ولا يوفي له بذلك وهذا العمل خيانة وكذب ومن فعل ذلك فالله جل وعلا خصمه يوم القيامة والشاهد من الحديث ما يتعلق بالإجارة وهذا الحديث أخرجه البخاري. Donc malheureusement, comme on le constate, que beaucoup de gens aujourd'hui vont engager des gens, des travailleurs, pour faire telle ou telle tâche, en contrepartie d'un salaire qui est défini, alhamdoulilah. Par exemple, on va engager la personne en contrepartie, lui disant qu'il va être payé 500 euros, par exemple. Puis lorsque la tâche elle est finie, que le travailleur réclame ou vient chercher son salaire, on ne va lui donner que 250 euros, alors qu'à la base, on devait lui donner 500 euros. D'accord? Ou alors, lorsqu'on va promettre au travailleur de pouvoir habiter dans une telle ou telle maison, et ainsi de suite, eh bien, on ne va pas respecter le contrat qui avait été à la base convenu. Donc, cette façon de faire, bien sûr, c'est une trahison, c'est un mensonge. Et celui qui fait cela, comme on a dit, comme Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le hadith al-Qudusi, il aura pour adversaire Allah Jalla wa Ala le jour du jugement, qu'Allah nous en préserve. Et donc, la partie du hadith ici qui est en rapport direct avec le chapitre, c'est celui concernant donc Al-Ijara, rapporté par Al-Bukhari, le hadith. Walhamdulillah. Fanaktafi bihada, inshallah ta'ala. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا يعلمنا بما ينفعنا والعلم عند الله آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته